La journée était compliquée. T'as couru toute la journée entre ton patron à poil irritant et ton petit dernier sa grippe carabinée. Maintenant, c'est ton moment.
Pendant une heure,
il pénètre ton intimité. Squatte ta tablette
et retourne ton jeudi soir.
21h-22h, Olivier et sa team
en live.
Et ça démarre.
A tout de suite.
Maintenant.
Oui, ça y est. 21h, vous êtes bien dans l'émission On part en live sur le sur Couleur FM, bien sûr, tous les jeudis, 21h, 22h, vous êtes bien en direct, je vous le disais, en antenne tout à l'heure, du moins en antenne, en Facebook Live. On a reçu de toute personnalité, on a eu des cascadeurs, on a eu des chanteurs, des auteurs, interprètes, on
des
a eu
pilotes.
Des comédiens, des pilotes, DJ Toral, je fais un petit coucou, un gros bisou à mon ami. On a eu des personnes
chanteuses.
qui font des chanteuses, comme je vous disais tout à l'heure, comme Marjorie, qui était là Mars. Avec nous dans les studios, avec son album qui est sorti, c'est un carton message, elle reviendra avec nous bien sûr, dans quelques moments, je pense dans quelques semaines aussi en même temps pour nous parler de son actualité. Mais ce soir, c'est comme ça. Eh oui, il y a des métiers où on est obligé. Eh ouais, on est obligé. Vous savez garder un secret. Nous aussi, on vous dira presque tout, mais pas tout. On va voir si vous êtes sage. C'est pour ça qu'il n'y a pas la webcam. C'est fait exprès. Puisque ce soir, nous avons un détective privé qui est avec nous. Franchement, on n'a jamais reçu et c'est vraiment un plaisir. Vous savez, moi, j'ai deux plaisirs. C'est quand on parle de la magie. Ah, mais c'est vrai. Et les choses qui sont un petit peu, alors, je vais pas dire insolites en même temps, mais c'est vrai qu'on n'a pas un détective privé tous les jours dans son émission et qu'on voit pas. Tiens, j'appelle mon pote, c'est détective. Ça va ou c'est qu'elle est ma femme? Non, il va nous dire, est-ce que c'est ça, en fait, en même temps? Est-ce qu'il va nous parler de tous ces gens, en fait, qui ont besoin? Est-ce qu'on y croit encore, au moins, en détective privé? Moi, je sais que personnellement, oui. Et j'aimerais bien en savoir plus. Mais avant tout, bien entendu, on va présenter l'équipe, puisqu'à la technique, c'est Laurent. Un coup, c'est Lolo. Un coup, c'est Tof. Un coup, c'est Lolo. Un coup, c'est Tof. Ça va, mon ami?
Oui, il faut, toujours.
Tranquille, tout va bien?
Oui, tout
va bien. Eh ben, écoute, ouais. Avec le beau temps, tout va bien. Oh, comment ça va, Émilie?
Bonsoir.
Qui nous fait la rubrique coquine à 21h45, si vous êtes sages, les amis, on la demande, on la réclame.
Oui, c'est moi.
Ça va, ce soir,
oui,
c'est un petit peu soft ou c'est
ce soir,
un petit peu showtime?
Politiquement correct.
Politiquement correct,
ouais,
d'accord.
Ça promet.
Politiquement correct.
Angélique est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Ça va et vous?
Tout va bien, oui, super. Je fais un coucou aussi à Chris Palmer qui viendra avec nous dans les studios. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées, merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous le disais. Tof qui n'est pas là ce soir mais qui sera avec nous la semaine prochaine puisqu'il sera remis, du moins j'espère. Et puis il y aura aussi en même temps Julie qui viendra, qui fait aussi partie de l'émission. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Ça va?
Merci de m'avoir invité.
Eh bien écoutez, ça va. Avec grand plaisir. On peut faire des photos? Non, eh non, pas de photos, c'est privé. Alors, c'est une émission d'humour, bien sûr. Alors, on est ravis, hein. Franchement, on est ravis que vous soyez avec nous. Et ben, on voudrait savoir déjà les premières questions. Qu'est-ce qu'un détective privé? On peut faire un petit coucou aussi à madame en même temps. On peut lui mettre le mimi, le crocro, le. On met rien du tout. Mais il n'y a pas de souci. À l'entente, tout va bien. C'est. On donnera pas de prénom.
Elle ne veut pas parler.
C'est privé.
C'est privé.
Allez, Alexandre.
La discrète.
Je taquine. Allez, oui, pour moi, voilà, c'est Olivier. Et je suis très heureux, bien entendu, de continuer à animer cette émission depuis maintenant de longues années. Et merci à Couleur FM.
Dis pas ça,
et merci à Véronique de me faire confiance chaque jeudi. Un petit bonsoir à Thierry aussi, à Pitou, puis Titane, puis toutes les personnes qui sont connectées. Itinéraire Bis aussi, 20h, 21h. Ce soir, je sais plus le groupe qui était là, mais on leur fait un petit coucou aussi en même temps à Gérard. Alors, Alexandre, depuis combien de temps vous êtes détective privé? Quand vous étiez jeune, déjà, vous êtes dit, je vais essayer de voir. Alors, faut savoir
en
une
fait,
chose.
En fait, c'est un ancien flic.
Non, mais.
C'est une détective. Comme dans les films.
La radio reste de la radio, hein. Ce que je vais dire, des fois, je vais dire des boutades, mais comme je dis, je me cache derrière le truc. La radio reste de la radio. Il y en a, ils font la télé, reste de la télé. Je fais la même chose, hein. Et ce que je veux dire, voilà. Non, alors, quand vous étiez jeune, vous essayiez de filer.
Ça veut dire quoi?
Papa et maman? Ben non, mais quand vous étiez tout petit.
Vous voulez dire que je suis vieux, c'est ça?
Ah non, pas du tout!
C'était
on a presque le même âge. Alexandre. Non,
c'est
à deux ans près.
Blancs,
mais non.
Mais je voulais dire pour les deux en fait.
Non, mais merci.
Non, mais lui c'est du faux. Hein.
C'est du faux.
Qui
ah ouais
moi?
Vous avez pas les cheveux blancs?
Bah, bien sûr que non, j'ai pas les cheveux blancs.
Bah,
25
oui.
ans, si on a les cheveux blancs, on est mal.
Mais c'est un style.
Alexandre, je voulais savoir. Non, quand vous étiez jeune, alors quand je vous disais c'est un petit peu une boutade, mais quand il y avait votre papa et votre maman, vous regardiez si je sais pas, c'est comme
pas
ça que comment on peut commencer. Mais non. Autre chose.
Alors oui, j'étais un petit peu attiré par ces métiers d'investigation, notamment je pensais intégrer les forces de l'ordre. Et puis c'est avéré qu'après coup, après réflexion et les études que j'ai suivies, j'ai décidé de me renseigner sur le parcours de l'enquêteur droit privé.
Mais du coup, tout de suite, vous êtes arrivé dans cette branche-là ?
Oui, j'ai suivi un master en droit. Alors, c'était pas tout à fait pour être ensuite, au départ enquêteur, puisqu'il n'y a pas nécessité d'avoir un master pour être enquêteur. Et ensuite, je suis revenu en arrière pour passer une licence pro et devenir enquêteur.
D'accord, parce qu'il faut une licence quand même pour être détective.
Oui.
Bah, excuse-moi, moi, pour
et
moi...
Et du droit pour connaître toutes les...
Alors, il est préférable, en effet, d'avoir des connaissances juridiques pour faire ce métier, parce que ça en nécessite réellement.
C'est une obligation d'avoir un diplôme pour être détective privé.
Oui, oui, pour être directeur d'agence, il faut maintenant...
Voilà, pour être reconnu, voilà.
Et reconnu.
Pour être aussi salarié dans une agence, il faut avoir le minimum... de connaissances juridiques.
Et c'est important d'avoir. Mais juridique, c'est important dans le sens où, pour éviter, si on a des preuves, de les louper, de pouvoir les donner à la.
De bien suivre le fil directeur, parce
voilà,
que avoir des éléments, c'est simple. Enfin, simple, ça nécessite une curiosité et un petit peu d'organisation, mais on finit par réussir à avoir les éléments. Ce qui est compliqué ensuite, c'est de les produire.
Voilà, parce que le problème, c'est qu'on peut avoir des documents et ils vont pas forcément être valables à la justice, quoi.
Et il faut le savoir. Voilà. Parce que si on le sait pas, on les produit et ensuite on rencontre des difficultés juridiques parce qu'on a des juges qui nous tapent sur les doigts pour nous dire non, ça, c'est pas possible.
Donc c'est homologué? Moi, je pensais que les détectives privés, c'était que dans les autres pays ou dans les films, quoi.
Non, comme en Amérique, ils sont dingues aussi.
Non, mais en France, c'est vrai que c'est rare.
C'est après, pas reconnu.
Il y en a pas beaucoup. C'est mal reconnu. Il y en a pas beaucoup. Vous me l'avez dit.
Ouais, il y en a pas beaucoup.
Il y en a très peu.
Par rapport à d'autres professions, comme la profession d'avocat, c'est insignifiant.
Après, on en voit quand même, parce qu'à la télé, on en voit, parce qu'ils font beaucoup. Ah si, il y a beaucoup d'enquêtes sur certaines chaînes qu'on ne citera pas, ils le montrent. Moi,
parce
j'adore
que c'est
ces
médiatisé.
Trucs-là. Voilà.
Oui, plus que parce qu'on est nombreux.
Oui, parce qu'il y a des malheureusement des enquêtes qui nécessitent d'avoir des gens qui fouinent et.
Oui, on parlait tout à l'heure quand j'ai rigolé tout à l'heure, je disais pour l'infidélité, et c'est vrai que le reportage était surtout basé là-dessus.
Bien sûr.
Voilà, alors il va nous dire justement, est-ce que c'est basé là-dessus ou pas. Moi, je voulais savoir la première question, du moins une de mes premières questions, c'est quand une personne est avec vous, vous êtes au resto avec votre femme, des amis, tout ça, et il y en a, il dit sa profession, qu'il connaît pas, il va tout de suite, c'est détective privé, c'est oh, ouais, ça existe. Oui, quand on dit on mange, il y a des avocats, il y a des docteurs, tout le monde connaît. Mais on dit, et toi, tu fais quoi comme boulot ? Moi, je suis détective privé.
Non, il dit, il est directeur d'agence.
Non.
Alors, c'est toujours un peu délicat parce
C'est clair.
On peut très bien le vivre,
mais
on peut le vivre aussi
un
peu différemment. C'est un petit peu comme, pour faire un peu dans l'extrême, un peu comme la personne connue, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes complètement insignifiant à table, pas plus qu'un autre finalement, et puis dès que vous donnez votre profession, tout le monde vous regarde avec des grands yeux et vous devenez un petit peu le débat de la table.
C'est ça.
Donc ça peut être agréable sans être agréable parce que déjà tout le monde a un petit peu son préjugé sur la question, donc on vous pose des questions sans réellement vouloir forcément entendre les réponses, et donc vous pouvez vite devenir en effet la bête de foire. Pour se défouler des éventuelles infidélités déjà existantes.
Mais toujours, en fait, le détective privé va avec l'infidélité. Heureusement, il n'y a pas que ça.
Je pensais qu'il y avait le journal, moi. Détective privé, non. Il y avait détective.
Non, mais détective, on en parle, puisque quand il y avait sur une certaine chaîne, il y avait une émission il y a quelques années en arrière.
Ah oui, mais alors vraiment, les années en arrière.
Mais pour les recherches, ils faisaient appel à ça. Donc du coup, c'est vrai qu'on les voyait, mais on voyait plus pour rechercher des personnes. C'était pour parler aux gens. C'était pas vraiment des enquêtes extravagantes, quoi. Mais il y en a besoin de partout, les enquêtes, parce que il y a des gens, quand, par exemple, il y a un décès, s'il faut retrouver quelqu'un, les huissiers vont faire appel à des détectives.
Oui, en fait, il y a énormément de
cas. S'il y a un décès, on va chez la personne, on la retrouve.
Non, parce que pour les héritages, s'il n'y a pas d'enfants ou de petits-enfants, ni rien, ou de la famille, ils vont chercher ailleurs. Donc, il faut retrouver, ou de l'argent. Il faut savoir que l'État français, aujourd'hui, a énormément d'argent dans les banques, et on ne sait pas à qui ils vont. Donc du coup, les banques, elles demandent à des détectives de rechercher à qui pourrait être cet argent.
C'est pour ça qu'ils ont retrouvé Jérôme Cariel facilement.
Ouais. Il est multitâche, quoi.
Non, lui, il n'était pas caché.
Les premières questions qu'on peut se poser en étant détective privé, c'est est-ce qu'on le montre ou est-ce qu'on reste caché par rapport à cette profession quand même ?
C'est la question que vous me posez, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce que je dois rester caché ou est-ce que je dois...
Ouais.
Moi, je suis d'avis qu'aujourd'hui, rester caché, c'est plus d'actualité. L'idée un peu du détective avec son imperméable et son chapeau...
À la Columbo.
Non, je suis plutôt d'avis qu'il faut communiquer. Communiquer comme un réel sens dans la justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a une place pour l'avocat qui va plaider, il y a une place pour le juge qui va rendre sa décision, mais il n'y a pas de place pour l'enquête et pourtant elle est nécessaire en civil. Parce qu'en droit civil, si vous allez faire une procédure devant un juge civil et puis que vous n'avez absolument aucun élément pour prouver la faute existante de la partie adverse, vous irez nulle part. Donc s'il y a une nécessité de se présenter devant le juge avec son avocat qui va plaider pour essayer de faire gagner son client et puis surtout avec suffisamment d'éléments que le détective va vous ramener pour prouver que la partie adverse est de mauvaise foi. Donc tout l'intérêt est là. Donc je pense qu'il y a une vraie place pour le détective privé dans la procédure judiciaire et qu'aujourd'hui, elle est pas suffisamment connue. Donc si tous les avocats avaient peut-être plus l'habitude de faire appel à des moyens d'enquêteurs, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas parce que depuis le début, on leur demande de défendre leurs clients, on leur demande pas de chercher des informations.
Oui.
Voilà, le client vient avec les infos et puis l'avocat, en fonction des infos que le client a, défend son client. Donc, s'il a beaucoup d'infos, tant mieux pour l'avocat. S'il en a très peu, eh ben, il fera comme il pourra. Et il y a maintenant cette alternative qui est, on n'a pas suffisamment d'éléments, ça risque d'être un petit peu léger. Pourquoi ne pas faire appel à un enquêteur pour voir ce que lui est capable d'amener ?
De trouver.
Et nous, on apporte des éléments qui viennent complètement basculer tout ce qu'on peut avoir sur un dossier.
Et il faut quelle qualité
et bouleverser aussi en même temps l'événement.
Ah bah bouleverser pour la partie adverse l'événement qui s'attendait pas du tout à avoir un rapport aussi probant qui va venir mettre en avant certaines choses qui sont difficilement ensuite contestables.
Oui, exactement. Oui. Alors on parlera, vous prenez des photos et tout ça aussi en même temps. Hein,
oui,
c'est
bien
ça,
sûr.
Hein. Comme dans les films. Putain, c'est énorme. On va se passer un petit son. Oui, c'était quoi votre
question ? Je voulais juste savoir quelles étaient les qualités qu'il fallait avoir parce que je pense qu'il y a un minimum de...
Eh ben ça, on le saura après. Après, beau gosse déjà, vous avez vu. Allez, 21h12, on est bien dans l'émission, on part en live sur Couleur FM, on s'écoute un petit son, un petit bonsoir aussi, en même temps, il sera avec nous la semaine prochaine. Mobile Doc, du côté de la Tour du Pin, si vous avez une réparation téléphonique, sera là avec nous, il va nous parler de choses, vous allez voir, c'est impressionnant. Ça sera la semaine prochaine. Mais avant tout, on parle de détective privé. Restez avec nous, 21h12, je vous le disais, en direct. Si vous voulez nous appeler, 09 79 21 33 77. C'est vous qui avez la parole. À tout de suite.
You are my-
Ça y est, on est de retour.
Oui, et par contre, on n'a pas un slide, c'est pas grave, on est en direct. On va l'avoir ou on va pas l'avoir? Le slide vient de passer là? Ah non, on l'a pas entendu là, c'était la musique. Non, mais c'est pas grave, tu viens d'arriver, Lolo. Hey, tu viens d'arriver, on peut pas être tête
en
l'air.
T'es débutant?
Lolo n'a jamais fait d'émission, c'est la première fois qu'on travaille ensemble au bout de 16 ans. Hein, Lolo?
Bien sûr.
J'ai pas entendu le slide, hein. Je peux être voyant, mais là, je suis pas sourd non plus. Allez, 21h15, je vous le disais, on est bien dans l'émission, on part en live tous les jeudis, 21h-22h, et ce soit Alexandre, qui est avec nous, il fait partie, alors on peut le dire, il est en région Rhône-Alpes. Alors, ça va être un petit peu le côté, mais qui est-ce? On va regarder un petit peu sur Internet, qui c'est. On peut le dire, est-ce qu'il y a un site, quelque chose? Alors, c'est Alexandre, vous êtes situé à...
Alors, je suis Alexandre Lamartini, dirigeant du cabinet Detective and Partners, et j'ai plusieurs cabinets, dont un dans la commune de Domarin, qui se trouve très à proximité de Bourgoin-Jallieu.
Et ça aussi, c'est
Lyon également, dans l'Ain et dans la Loire.
Il y en a un petit peu
Et vous êtes combien au total?
On est tous indépendants et on travaille avec d'autres indépendants, donc on est très nombreux si les besoins de l'enquête le nécessitent, et en fonction, on s'adapte.
D'accord, c'est un métier
où
vous faites appel
majoritairement des indépendants à travailler tous en collaboration.
Et est-ce que vous avez des donc je demandais tout à l'heure si vous avez des qualités qu'il fallait, donc déjà cette question-là, et on peut savoir si par exemple sur une enquête, il y en a un qui va être plus doué en filature ou autre. Est-ce que des fois vous échangez les jobs parce que ça vous plaît moins ou enfin?
Je pense qu'on a tous en effet des qualités et puis des difficultés dans certains dossiers. Donc forcément, il faut être patient parce qu'on peut être amené à rester très longtemps, à attendre que quelque chose se passe. Et je pense qu'il faut être principalement curieux, persévérant. Et puis avoir cette quête de résultats. Je dirais même un peu perfectionniste pour réussir dans ce métier-là, parce que l'information, elle n'est pas toujours difficile à obtenir, mais il est nécessaire de la confirmer plusieurs fois.
Parce qu'en fait, quelqu'un, admettons, un homme qui va, qui rencontre une femme à l'extérieur, il va bien aller la voir régulièrement. Ils vont bien se croiser, je ne sais pas, non?
Oui, alors sur une surveillance basique où on est en train de filer une problématique familiale d'un homme qui aurait une relation extra-conjugale ou l'inverse. Oui, c'est relativement simple comme dossier. C'est-à-dire qu'on fait de la filature, de la surveillance, de la photographie, puis quand le couple s'éclipse à l'hôtel ou éventuellement le couple finit par avoir des gestes affectifs sur la voie publique, on capture les photographies, on les met dans le rapport. D'accord. Et puis c'est terminé. C'est pas trop... Après, évidemment, ce qui peut paraître un peu compliqué dans le dossier, même si c'est pas le plus difficile... c'est d'attendre longtemps à un endroit en pensant qu'ils sont là et puis qu'ils ne sortent jamais, ou éventuellement des choses dans ce type-là. Donc c'est un peu plus complexe. Mais...
Oui, ils restent toute la journée à l'hôtel. Mais ce que je voudrais dire dans le basique, par exemple, j'ai plutôt l'impression, alors c'est les gens qui sont auditeurs, auditrices, qui sont chez eux et qui pourraient effectivement se poser cette question, on est un peu dans le paparazzi là. Le basique, je parle. Oui. On attend que l'homme ou la femme sorte de son hôtel ou de chez l'amant, quoi que ce soit. On est... Attends, je suis bien appareil photo, moi. Donc on n'arrête pas, et après on montre à la femme ou à l'homme. Donc ça veut dire que regardez, on montre toutes les images. Là on est dans le paparazzi. S'il faut faire comprendre aux gens,
il
va
y avoir
gens,
quand même des choses qu'ils ont pas, vous avez pas forcément le droit de faire. Enfin peut-être que dans la vie, sur le lieu public vous avez peut-être le droit, mais prendre une photo de l'intérieur de quelqu'un, peut-être que là c'est peut-être, la propriété. Du coup vous avez peut-être des restrictions contrairement à paparazzi qui lui en a rien à fiche.
Oui.
Et justement on va essayer de rapporter.
Mais moi ce que je veux, en fait je dis ça pourquoi? Parce que je veux décortiquer justement le métier entre paparazzi et détective privé. Ça veut dire que vous, maintenant, vous allez nous en dire plus sur le métier de détective privé. C'est pour ça que c'est là-dessus que je veux en venir. C'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a le domaine de la justice, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout ça, c'est ça qui est intéressant.
Bien sûr. Alors, déjà, c'est un cliché toujours parler d'affaires familiales.
Exactement. Oui,
conjugales,
non, après, il y a les
dans un métier comme
et tout
l'autre.
Ça.
Oui, mais enfin, ça, c'est vraiment une toute petite part du métier, le familial. Parce que dans le familial, on entend aujourd'hui, on parle du conjugal, mais le familial, il y a aussi surveiller les enfants mineurs pour des risques éventuels. Il y a plein de choses. Donc là, on est en train de parler du conjugal parce que c'est souvent ce qui revient dans la tête des gens
quand
on parle du détective privé.
Ouais.
Bon, c'est pour répondre à ces questions, après le conjugal, faut pas mélanger un petit peu l'intérêt du détective privé. On n'est pas en train de parler de suivre de personnes qui sont en concubinage.
Voilà.
Et qui, pour le plaisir de l'homme, éventuellement uniquement savoir ce qui se passe, on se mettrait à suivre le conjoint. C'est pas ce qui se passe là. On n'est pas dans cette situation. On est toujours dans un cadre juridique qui est nécessaire pour intervenir. Et on est face à deux personnes qui sont mariées, qui ont du patrimoine commun,
oui, voilà,
qui ont des vrais intérêts.
Et de toute façon, si nous on le fait, par exemple demain, je suis mon compagnon, de toute façon, moi ça va. Enfin, il y aura les preuves que j'aurai amassées. De toute façon, légalement, elles valeront rien. On est d'accord. Hein. Donc, il vaut mieux faire appel à un détective.
Et puis nous, on n'aura pas le droit. On n'aura tout simplement pas le droit d'intervenir là où il n'y a pas de cadre juridique. Si vous n'avez pas l'obligation de fidélité, elle existe quand vous êtes marié. C'est l'article 212 du Code civil. Si cette obligation n'existe pas, aucune raison de venir aller apporter ou même de mettre en place des surveillances, elle serait disproportionnée par rapport au but poursuivi puisque légalement aucun cadre permettrait une intervention.
C'est-à-dire deux personnes pas mariées
En fait, pour que l'auditeur auditrice comprenne 21h21, on parle justement pour ceux qui viennent d'arriver avec un détective privé professionnel, bien sûr. Je suis sûr qu'on pourra en parler très rapidement. Il y en a qui font ça à l'arrache, qui disent qu'ils sont détectives et qu'ils ne le sont pas. Non, je sais pas. Des fois, ça peut.
Oui.
Bon, après, c'est non, mais pour que les gens.
Oui, mais comme dans tous les métiers.
Voilà, pour que les gens comprennent.
Alors, il y a plein de choses. On rencontre. Le problème, il est surtout des nouveaux arrivants qui. Vont brader un peu les prix pour essayer de rentrer dans le marché.
Oui, ils vont faire du discount, quoi.
Voilà, et puis, donc, y a en effet, on arrive à retrouver parfois des petites différences de tarifs et il faut s'interroger sur d'abord pourquoi cette différence de tarifs, savoir peut-être quand est-ce qu'une entreprise a été montée, parce qu'on peut pas dire, enfin, il faut se rendre à l'évidence qu'un détective qui a déjà quelques années d'expérience peut vous apporter.
Vous avez combien de temps,
vous? Ça fait 7 ans, moi.
7 ans?
Et dans ce monde-là, c'est beaucoup 7 ans ou c'est...
Dans tous les mondes, quand vous avez... Dans tous les environnements professionnels, déjà, quand vous avez 3-4 années d'expérience, vous êtes quand même plutôt bien. Enfin, ça commence,
ouais, mais
commence
c'est un,
à
c'est un métier
un peu...
particulier que vous avez.
Oui, c'est un après, métier particulier, mais...
Après, plus t'as d'expérience, plus...
Bien sûr.
Mieux c'est.
Quand on prend un détective privé, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un patrimoine derrière, ce que les gens comprennent. Ça veut dire que la personne, si elle a rien comme voiture, elle a pas de voiture, elle a rien du tout, mais il veut quand même suivre sa femme, un exemple, et que derrière, juridiquement, il y a rien, ça sert à rien.
Pas forcément. C'est pas que ça sert à rien. Parfois, c'est uniquement un besoin pour se détacher de l'autre. Ça peut être aussi psychologique.
D'accord.
Oui,
voilà.
Pour les enfants.
C'est vous
simplement
qui vivez,
pour les enfants.
L'expérience.
Si
pour
on a
les
des enfants,
enfants voilà,
si on a des enfants et que pour derrière on a rien, si la femme, elle trompait son mari, et qu'au final, il sait que la garde va être forcément à la femme, parce que 90% du temps, c'est comme ça. Il se dit peut-être, non, mais moi, je veux la garde de mes enfants.
Mais
elle m'a trompé, c'est de sa faute, si on n'est plus ensemble, et voilà.
Alors, tout à l'heure, on parle effectivement de. Trompé. À chaque fois, tromper.
C'est une obsession chez tout le
monde. Mais non, parce que les trois
c'est
quarts des
ça.
Gens, il y a beaucoup. Enfin, il doit avoir
fait,
souvent le
c'est un sujet
coup,
sensible
en
société, le
voilà.
Fait que
le
les gens ne trouvent plus ça aujourd'hui moral. C'est-à-dire que. La fidélité devient un critère qui est moins important, au niveau de la société aujourd'hui, on le tolère plus. Et du coup, comme on tolère plus l'infidélité, quand je dis infidélité, c'est le fait de ne plus être fidèle comme c'était le cas il y a quelques années en arrière, comme on ne le tolère moins, on tolère encore moins qu'on puisse être suivi dans cette perspective.
Maintenant, on est peut-être plus libre, mais moi, j'ai un vécu et j'ai des gens autour de moi de tout âge, et je vous promets que l'infidélité a toujours existé sur des couples qui ont 80, 70... moi, je suis bénévole dans une maison de retraite, j'entends des choses, j'ai entendu plein de choses. Maintenant, les gens se quittent. Autrefois, les gens pardonnaient, disaient c'est pas bien, on va reconstruire, on va faire les choses. C'est ce qu'on a maintenant, on est dans une société de jetable. C'est-à-dire que tu m'as trompé, d'accord, machin, tac, tac, tu l'as, hop, allez, c'est bon. Et autrefois, les gens, ils voulaient quand même rester avec la personne avec qui ils étaient mariés, même si la femme savait que son mari allait ailleurs. Et moi, pour le, je le vis, et je suis bénévole dans cette maison de retraite et j'entends. Des choses et alors surtout quand ils vieillissent, ils disent ces personnes-là disent mon mari, je sais qu'il m'a trompé, je sais qu'il a d'autres enfants ailleurs, mais ça fait 53 ans ou 60 ans qu'on est mariés.
Oui, tout à fait. Il y a un changement dans les
mentalités. Voilà, il y a un changement de mentalité.
Après, c'est
aussi.
Vrai que cette activité, quand on parle de relations extra-conjugales aujourd'hui, les gens le perçoivent mal. Le détective ce que je veux dire, c'est que le détective privé qui va venir surveiller ces relations extra-conjugales, entre guillemets, c'est souvent mal perçu. Enfin, moi, j'ai souvent des échos comme quoi c'est mal perçu par la population, ce type d'action qui est de surveiller la relation extra-conjugale. Ça pose souvent un problème de moralité. Alors qu'on parle du même problème de surveiller dans un cadre de concurrence déloyale, et là, tout le monde trouve ça normal.
C'est normal.
Et au niveau de votre job, c'est essentiellement justement l'infidélité ou vous avez, enfin, ou en fait, il y a plein de choses, il y a même d'autres choses qu'on penserait pas forcément.
Il y a plein de choses. On fait du recouvrement, on fait par exemple de la recherche de personnes dans le cadre de recouvrement de créances.
Oui,
ça peut être adresse, ça peut être banque, domiciliation. Enfin, ça peut être plein de choses.
On fait tout en fait.
On fait tout. Mais on fait de la concurrence déloyale.
Qu'est-ce que vous avez
pas le droit de travail au noir. On fait plein de choses.
Ah ouais.
Hein. Oui, tout à fait.
Ouais.
Ça a été coupé.
On m'a été coupé.
Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, en fait ? Puisqu'apparemment, vous avez le droit de tout faire, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire ? Vous êtes obligé de demander à la gendarmerie ou à la police pour dire « je fais ça ». Est-ce qu'on travaille ?
Alors des fois, ça peut être pénal, on n'a pas le droit de les faire. Dès qu'il y a un dépôt de plainte qui a été fait, à partir de là, nous, on ne peut pas mener une enquête. On est dessaisi, en fait. Si une enquête civile.
D'enquête.
Alors, si une enquête civile est en cours, qu'on nous a mandaté pour faire une recherche ou faire des investigations qui pourraient toucher un peu de l'ordre pénal et que la personne derrière dépose plainte, nous, on peut pas continuer les investigations. Donc, la force publique a la puissance, a le monopole de la puissance.
Mais est-ce que vous avez déjà recueilli ? Est-ce que c'est quand même valable ou pas ? Ou du coup, tout ce que vous avez fait, c'est peine perdue.
Bien sûr, non. Tout ce qu'on va récupérer, nous, dans une investigation, on peut très bien le produire en force de l'ordre, qui ensuite récupéreront ces données et en feront ce qu'ils voudront. Bien sûr, de toute façon, c'est des éléments. Toute personne qui aujourd'hui vit une infraction, a le devoir de tout faire pour éventuellement délivrer ces informations en force de l'ordre. Donc, si demain, vous êtes là et vous voyez une infraction se commettre devant vous, vous prenez votre téléphone et vous filmez, vous avez tout intérêt à aller déposer plainte, en tout cas à aller aux forces de l'ordre pour montrer cette vidéo, pour qu'elle s'accompagne du dépôt de plainte qui s'est fait et qu'elle puisse les aider dans leur investigation. Donc moi, dans mon cas de figure également, j'ai tout intérêt à faire la même chose.
Est-ce que c'est reconnu, alors je ne parle pas de vous personnellement, mais je vais faire un état général, est-ce que c'est reconnu par les avocats ? Est-ce qu'il rigole pas au nez quand il dit il y a un détective privé, ou est-ce que c'est vraiment pris au sérieux? Comme est-ce que la gendarmerie, dans un état général, ou la police prend ça au sérieux? Est-ce que les juges prennent ça au sérieux?
En fait, comment dire, la police et les enquêteurs de droit privé ne font pas le même métier. Donc déjà, d'office, le policier comprend pas toujours ce que fait le détective. Et le détective, c'est beaucoup plus médiatisé, le métier de policier. Donc c'est plus simple de comprendre exactement ce qu'ils font. Mais ce qui se passe souvent, c'est que le détective a en tout cas plus besoin du policier quand il va se passer quelque chose, parce que souvent on est arrêté par les forces de l'ordre quand on est longtemps stationné à un endroit pour de la surveillance, donc c'est souvent ce qui se passe. Mais le policier, lui, n'a pas besoin particulièrement du détective privé. Enfin, il peut en avoir besoin quand il se rend compte qu'il n'y a pas de solution pour la personne qui vient déposer plainte, parce que ça ne relève pas du tout d'ordre pénal, et à ce moment-là, conseiller la personne d'aller directement voir un détective. Mais comme il n'y a pas réellement de besoin de collaboration entre ces deux services, il n'y a pas vraiment de. On ne peut pas parler vraiment d'une compréhension, je pense, entre ce que pourraient penser les policiers du métier de détective ou les gendarmes.
Je vais poser une question, mais pareil, encore une question qui pourrait être posée par un auditeur auditrice, un peu con ma question, mais je me la pose tout seul. Mais je me dis, vous parliez tout à l'heure de parking ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible que vous mettiez sur un parking handicapé et qu'il y a les gendarmes qui passent? Alors c'est con ma question, mais s'il y a une maison qui est là et qu'on veut pas bouger, est-ce que c'est possible?
Non, on peut pas commettre d'infraction. Non, voilà, comme tout le monde, on n'a pas la possibilité de commettre des infractions parce qu'on fait cette profession. L'infraction, elle est aussi...
Pour tout le monde.
Pour tout le monde. Donc si on est stationné sur une place handicapée, on sera verbalisé, tout simplement.
D'accord. Non, je pensais qu'il y allait avoir... Est-ce qu'il y a des cartes de détective? Tiens, ça existe?
Oui, il y a des cartes, mais enfin, elles donnent pas d'obligation aux forces de l'ordre.
Elles peuvent
donner une indication au civil, c'est-à-dire que la carte, elle sert à dire à un civil, je suis en train de mener des investigations, merci de collaborer, entre guillemets.
Oui.
Mais elle n'a absolument aucune possibilité de donner un droit.
Un petit bonsoir à Gana qui nous écoute aussi.
Vous n'avez pas de passe-droit.
Non, pas du tout. Voilà, c'est une coopération. Après, c'est une coopération intelligente. Hein, entre une personne qui donne un coup de main. Donner un coup de main à un détective privé dans le cadre de son enquête, c'est bénéfique. D'accord. Parce que derrière, on est dans un métier de réseau où on sait se rendre compte qu'une main nous est tendue pour ensuite, derrière, quand il y a un besoin, faire également ce qu'il faut pour essayer d'épauler les personnes qui, derrière, nous ont aussi donné un coup de main.
Et quand vous faites des filatures, vous êtes toujours tout seul ou vous êtes à deux? Parce que quand on est en voiture, il faut suivre d'autres voitures, il faut prendre nos photos et autres. On essaie d'être deux pour pouvoir shooter la personne ou on est généralement, on travaille
en général, on travaille seul parce qu'il y a une problématique de budget. C'est un enquêteur a quand même un professionnel qui sait bosser seul. C'est pour ça qu'on peut pas le comparer aux forces de l'ordre qui vont traiter des dossiers bien plus complexes en soi et puis qui travaillent en général à plusieurs. Donc on est formé pour tout faire. Après, deux, c'est... ça dépend des dossiers. Certains dossiers nécessitent d'être deux, forcément. Et là, du coup, c'est une vraie collaboration à deux, un vrai travail à deux. Mais bon, c'est pas toujours qu'on a des dossiers
c'est
qui
rare,
se
quoi.
Gèrent à plusieurs.
On peut donner une fourchette de prix. Une fourchette, hein, comme je dis, ça peut monter de combien à combien. Vous allez me dire, c'est selon ce qui se passe. C'est du cas par cas.
C'est selon ce qui se passe. D'accord. Et puis, c'est surtout en fonction de... En fait, c'est tout l'intérêt du métier. Enfin, en tout cas, c'est moi, ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est que... les dossiers se ressemblent parce que finalement les preuves à ramener, à proposer sont toujours à peu près à l'identique. Hein. C'est toujours des éléments qui vont démontrer quelque chose de concis, mais c'est toujours la même chose entre guillemets qu'on cherche. Mais les moyens sont tellement différents d'un dossier à l'autre que du coup c'est très compliqué comme métier parce que le même dossier, par exemple, exactement le même dossier qui va se passer le premier dans une maison et le deuxième en centre-ville, enfin maison centre-ville, le deuxième dans une maison à la campagne, la stratégie d'action va être complètement différente. Et c'est ce qui va nécessiter toute cette problématique. C'est-à-dire que on va pouvoir passer 5 heures en centre-ville parce que planqué en face du domicile pour prouver la relation extra-conjugale est relativement simple en soi parce que bah en centre-ville, personne ne vous remarque particulièrement. Donc
et là, on fait quoi
simple.
Pendant 5 heures à attendre?
Bah, on attend pendant 5 heures
non,
jusqu'à
sérieux.
Ce que ça
on
se
planque.
Passe. 5 heures, c'est rien. 5
tu
heures.
Fais comme dans, les...
téléphone.
Comme dans les films
non,
où les mecs
peuvent se cacher
dans
un véhicule qui a des vitres teintées si on a réussi simplement à stationner ce véhicule sans que personne s'en aperçoive. Mais vous faites la même chose en campagne. Et ben, le véhicule, vous ne le laissez pas parce qu'au bout de 5 minutes, quelqu'un vient vous voir pour demander ce que vous faites.
Donc,
imaginez la complexité qu'il peut y avoir entre ces deux environnements qui pourtant nécessitent la même action.
Mais du coup, en fait, vous êtes embêté maintenant avec les voitures teintées, parce que maintenant, on n'a plus le droit aux voitures teintées.
À l'arrière, vous pouvez toujours les teinter.
Et même devant, vous avez le droit.
Non, avec la nouvelle loi, ils ont demandé à déteinter les véhicules.
Alors, je vais faire juste une aparté là-dessus. Effectivement, faut savoir que moi aussi, j'ai les vitres teintées sur mon 4x4. Maintenant, faut savoir une chose, c'est que derrière, ils n'ont rien le droit de vous dire. Devant, vous les enlevez, mais vous pouvez remettre des vitres teintées à la hauteur de 70%. Ça veut dire que vous remettez des vitres teintées à 70%.
C'est-à-dire qu'on vous voit quand même.
On vous voit quand même. Donc, voilà. le minimum, c'est 70%. Ceux qui ont plus de 70%, 78 ou 80%, là, ils sont passibles d'une amende. Et 3 points. Donc, mais sinon, c'est 70%. Et comment
coup,
on sait et les gendarmes, comment ils font? Tout simplement, pour finir juste là-dessus, c'est que vous allez chez un concessionnaire, vous faites enlever les vitres teintées, vous en faites remettre. Les gendarmes ne peuvent pas regarder. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir regarder. Donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir un papier et de dire, regardez, je suis allé les faire faire et c'est bien conforme par rapport à la société à laquelle il me l'a fait. Voilà. Ça, c'était une aparté. Mais les vitres teintées, okay. Maintenant, on peut
donc
mettre...
Donc, les détectives sont tranquilles. Ils peuvent encore avoir des vitres teintées.
Est-ce qu'il y a une petite... Alors, j'aimerais bien savoir, parce que franchement, ça m'intéresse vraiment, à savoir quand vous avez commencé la première fois, en fait, comment ça se passe, quoi? Et puis j'aurai d'autres questions encore par la suite, mais ça veut dire quoi? On a peur, on a envie de bien faire. Alors, faut savoir, il y a 6 ans en arrière, c'est vrai qu'on avait quand même l'iPhone, on a quand même des produits sophistiqués, on enregistre, on fait quand même pas mal de choses, on n'est plus avec la caméra Super 8, on n'est plus avec le Polaroid ou le machin qu'on remonte et on attend les photos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'on a une technologie quand même qui est moderne. Donc ça veut dire quand vous avez commencé, vous aviez eu besoin de quoi? On va pas dire la première mission que vous avez faite, si on peut appeler ça une mission.
Alexandre. Alors, déjà quand on sort de l'école, l'avantage étant qu'on est suivi puisqu'on a un stage chez un professionnel. Donc déjà on peut un petit peu voir comment ça se passe par le biais du professionnel qui vous prend. Après bah c'est beaucoup de stress parce que vous savez pas comment vous y prendre et parce que vous avez toujours peur d'être vu. En fait, je pense que le vrai premier gros problème de l'enquêteur,
être transparent.
En fait, c'est avoir cette capacité à dire dans un dossier, là j'ai été vu, ou alors simplement, là j'ai été pas vu. Parce que le souci, il est là. Il est principalement là. C'est-à-dire que quand on se sent toujours vu, on s'autorise rien. Donc, on est dans un dossier où on reste toujours systématiquement loin, où dès qu'on veut se rapprocher de la cible parce qu'il y a une nécessité, on le fait pas parce qu'on se dit non, elle va nous voir, elle nous a déjà vu tout à l'heure. Et donc, le vrai problème, le vrai professionnalisme, il est là. C'est-à-dire savoir quand on a été vu, quand on a été regardé, fixé, quand la personne vous a regardé d'un air complètement évasif ou si elle vous a regardé pour vous regarder et qu'elle pourrait tout à fait se souvenir de vous quand vous allez vous retrouver 10 minutes plus tard à un bar à côté
dans
de
un
lui,
autre lieu.
Avec lui. Et donc, du coup, c'est ce côté un petit peu s'éloigner pour ne jamais être vu, se rapprocher pour pas être plus vu, mais simplement pour être là quand quelque chose se passe. Et ne pas passer à côté, parce qu'être loin de quelqu'un, ça sert à rien. Dans une enquête, quand je travaille dans une enquête, il y a un moment donné, il faut savoir ce qui se passe, et même parfois être à côté pour écouter des éventuelles discussions qu'il peut y avoir, et puis vous donner des indications sur le dossier, en vous disant, bah, tiens, ça c'est bizarre, il y a ça qui se passe, cet élément. Donc tout est bon à prendre, et il faut savoir être à la bonne distance, au bon moment, et surtout le plus discret possible pour pouvoir revenir toujours à cette même distance et se dire, bah là, voilà, ça fait 3 semaines que je le suis, j'ai eu plein d'éléments intéressants, il m'a jamais vu parce qu'il est indiscret, enfin parce qu'il n'est pas forcément très concentré, et en même temps, moi, je suis suffisamment discret, il m'a jamais particulièrement regardé, je me suis fondu dans la masse.
Mais comment la personne peut vous reconnaître sans vous a jamais vu?
Mais la personne, elle vous remarque.
Parce que vous êtes physionomiste,
parce que dans
elle
la
vous
rue.
Remarque,
voilà.
Parce que vous avez une attitude qui,
voilà,
la
qui
surprend.
Fait qu'on vous remarque.
Les filatures, c'est pareil. Parfois, je bosse avec des stagiaires. Et les stagiaires, eux, sont concentrés sur faut pas que je perde ma cible. Donc, tout est possible, tout est permis. Faut pas que je perde ma cible. Et donc, quand il faut commettre l'accélération, l'infraction, ils la commettent uniquement pour pas perdre la cible, alors qu'en réalité, s'ils avaient eu une conduite tout à fait naturelle, même à des distances qui sont courtes de la voiture en question, ils auraient été beaucoup moins vus qu'en étant beaucoup plus loin et en adoptant derrière des comportements qui sont un petit peu exagérés, des comportements qui peuvent être remarqués par la personne derrière en se disant tiens il est maladroit celui-là, c'est un chauffeur un petit peu énervé, et du coup on vous remarque comme ça, en fait on vous remarque pas si vous avez une conduite tout à fait normale. Et du coup on est face à des stagiaires qui cherchent à être trop loin de la cible et la rattraper quand il faut, mais malheureusement rattraper ils sont dans l'obligation de commettre des infractions, de dépasser rapidement. Et ils sont vus à ce moment-là. Et quand ils sont vus, ensuite, la personne regarde en se disant « Tiens, c'est un chauffeur énervé. » Et puis, vous remarquez, en fait. Oui. Donc, vous le remarquez, vous vous rappelez de la couleur de la voiture.
Il est là une fois, deux fois, trois fois.
Et puis ensuite, vous, beaucoup plus loin, vous remarquez encore et vous dites « Tiens, c'est marrant. Il me semble que c'est celui que j'ai vu avant. » Et vous êtes encore un peu plus attentif au véhicule. Et puis après, vous arrivez à remarquer le véhicule et vous apercevoir que vous êtes suivi.
Ouais, donc il vaut mieux avoir quand même une voiture discrète dès le départ, quoi.
C'est évident.
C'est une voiture vert pomme, ça le fait pas trop.
Bien sûr. De toute façon, ça
non,
c'est évident.
Non, mais après, voilà. Après... Puis bon, il y a des gens qui s'en foutent. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je travaillais dans une société où une fille arrive en stage. Donc elle est là, c'est une grosse société sur Saint-Quentin, en stage, la jeune fille. Et moi, j'ai dit au directeur, je lui dis, c'est marrant parce qu'elle est quand même âgée pour une stagiaire. Je trouvais ça, il me dit, oh, écoute. Et en fait, c'était une espionne.
Ah bon?
Et oui, elle est venue nous piquer tous nos clients. En très peu de temps, en 3 semaines. Elle a fait un stage de 3 semaines. Donc, vous êtes en stage avec le logiciel, vous êtes en stage un peu de partout, on vous confie des dossiers parce que tout le monde court partout.
Et ça, c'est le détournement de clientèle.
Et voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On l'avait intégrée dans la société.
Et après, elle est partie, elle a récupéré les clients.
Eh bien, dans l'autre société où elle était.
Donc, c'est du détournement de clientèle.
Ouais,
vous pouvez le prouver.
Oui, on pouvait le prouver, mais on avait quand même signé sa convention de stage.
Oui, mais ça n'empêche pas que derrière, elle ne peut pas partir avec les clients.
Oui, mais elle... Ah oui, non, mais elle est venue, elle a donné les clients à un autre PDG.
Oui, mais ce sont des clients avec qui, au départ, vous aviez une convention, qui vous aviez travaillé.
Oui, elle est venue en stage. Oui. Lui, il l'avait prise pour venir en stage. Et en fait, elle lui a
redonné le client. En fait, il a compris, mais en fait, il dit juste qu'en fait, vous auriez pu, via un détective, prouver. Et du coup, même si vous aviez signé une convention stage, il aurait prouvé que.
Oui, mais elle était pas en
train de
faire ça. Elle travaillait pas chez eux. Elle est venue en stage chez nous.
Et en fait, elle a dit tenez, vous voulez m'embaucher, j'ai tout ça, si vous voulez, comme client. Elle était intelligente, elle.
Ah oui, mais il y a énormément de sociétés qui font ça.
Oui, parce que ce sont des clients que vous aviez vous-même démarché.
Voilà.
C'est ça.
Oui.
Avec qui vous n'aviez pas encore signé.
Si,
que vous aviez en plus signé.
Oui.
qui du coup ensuite sont partis à la concurrence.
Exactement.
Donc ils ont été redémarchés par cette même personne.
Pas par cette même personne.
Par une autre personne.
Par une autre personne.
D'accord.
Combien de temps vous gardez une mission? Ça peut durer combien de temps une mission?
De plus.
Un mois, deux mois.
Bah, ça va dépendre du client et de son besoin. Il y a des clients qui vous appellent six mois plus tard pour remettre en place une intervention parce que c'est le moment ou jamais. Ça dépend, c'est très aléatoire. En général, de toute façon, on n'a pas le droit de garder les documents confidentiels d'un client plus de trois mois. La CNIL nous impose. Donc,
Ah, c'est la CNIL qui est aussi... Oui. D'accord. Et donc, vous devez détruire.
Caractère, moi, oui, information à caractère personnel.
Et quel est le meilleur moment de votre carrière que vous avez vraiment, vous en souviendrez toute votre vie?
Une anecdote mémorable.
Voilà, c'est cette filature-là, mais c'était vraiment... voilà, quoi.
Il y a beaucoup de moments un peu particuliers, mais bon, j'en ai un souvenir d'un et quand je commençais, du coup, c'est pour ça que je m'en souviens un peu plus. Mais j'avais été contacté par une dame et au départ, je n'avais pas tout à fait compris la problématique parce que je commençais et je n'étais pas complètement sûr de moi. Et elle voulait faire suivre la maîtresse de son mari. Donc du coup, quand j'avais entendu ça, je m'étais posé beaucoup de questions, à savoir, cette dame veut faire suivre la maîtresse de son mari, donc du coup, elle sait que son mari a une maîtresse, quel intérêt j'ai à interagir. Bon, je voyais pas trop. Et donc je m'étais dit, j'ai pas dû comprendre complètement, je vais quand même aller au rendez-vous, on verra bien. Et quand je suis arrivé au rendez-vous, il y avait son mari qui était avec elle, un petit peu perturbé. J'étais resté un peu... j'avais demandé 3-4 fois, mais du coup, c'est votre mari, ce monsieur? Et elle m'avait répondu oui, mais j'arrivais pas à comprendre.
Et en fait, il voulait savoir quoi? Pourquoi, si la maîtresse avait
parti? En fait, elle voulait dissuader son mari de partir avec la maîtresse. Et donc, elle avait décidé de payer un enquêteur pour prouver à son mari que sa maîtresse avait déjà quelqu'un d'autre.
Ah ouais, donc du coup, voilà. Non, mais quand même, il faut aller chercher loin. Ouais, pour garder ton mari, voilà. Tu sais, ton mari te trompe, il faut quand même aller chercher loin.
Ouais,
donc,
il faut avoir envie.
Vas-y, chérie, je te garde quand même, tu m'as trompé, mais je te garde quand même. Parce que bon, l'autre, c'est une pépériticienne. Donc non, chérie, tu vas rester
avec
moi.
Non, mais
elle devait être maso, je pense.
Non, parce qu'il y a des femmes qui vivent en couple par habitude.
Ouais.
C'est 21h42, on est bien dans l'émission, on part en live sur Couleur FM tous les jeudis 21h-22h. Alexandre et qui est avec nous et ceux qui viennent d'arriver, on parle justement de détective privé. Et là, on va passer un petit bonsoir aussi à Christian Léaché qui vient de se connecter en même temps.
Moi, je vais faire un bisou à mon chéri, voilà, je fais un gros bisou, il nous écoute ce soir.
J'y comprendrai jamais rien. Ouais, mais on lui fait un coucou aussi, il n'y a pas de souci. On va passer justement à la rubrique d'Emilie. De quoi allez-vous parler ce soir?
Alors, ce soir, je parle de politiquement correct. Pourquoi? Parce que tout le monde, dans les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé, on nous bassine avec les politiques. Mmh. La politique. Est-ce qu'on votait un peu à droite, un peu à gauche, machin? Donc, du coup, j'ai décidé de faire des petites recherches et je vous ai trouvé une rubrique sur le sexe et la politique.
D'accord.
On va rigoler un petit peu.
Bah oui.
Donc,
c'est bon moment.
Ah bah oui, en même temps. Comme ça, au moins, voilà, on se bataille pas pour dire je vais voter pour elle, non, je vais voter pour lui, non, je sais pas. Enfin voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Je vais vous parler de trois petites choses, d'accord. En sachant que ça vient pas de moi, hein, ça a été une enquête qui a été faite sur 4000 Français sur un réseau social libertin. Voilà. Mmh. Donc, il faut savoir que la moyenne d'âge, c'est 18 ans. Ils sont pas les voir en tout. Hein. Enfin, il faut savoir que 6 personnes sur 10 refuseraient de se mettre en couple avec un partisan de l'extrême droite. 52% pourraient entretenir une idylle avec quelqu'un qui est du partisan gauche. Et les autres, bon, bah ça va, en moyenne. Voilà. Par contre, si c'est juste pour coucher une petite nuit ou autre, là, on s'en fiche. 77% des Français, ça dérange pas au niveau... ils sont politiquement corrects, hein, comme on dit. Donc, ils s'en foutent si t'es à droite, à gauche, extrême droite, extrême gauche. Et voilà. En deuxième, les partenaires sexuels et la politique. Il faut savoir que nous sommes très flexibles. C'est-à-dire que tout le monde aime faire l'amour et on s'en fiche, hein, si t'es un peu de gauche, mais moi je suis droite, c'est pas grave. 80% des personnes interrogées pourraient avoir une relation sexuelle avec une femme ou une autre d'un autre bord politique. Le sexe semble donc être un bon terrain d'entente, hein, si on n'est pas d'accord sur le sujet. Et en trois, la politique sexuelle et la politique. Alors il faut savoir qu'au niveau des gauches, donc ceux qui sont plutôt de gauche, eh ben, vous êtes polygame. Donc on parle d'infidélité, ben voilà, on sait que c'est de gauche, hein, on sait pas qui vote pour gauche, mais la gauche, vous êtes un peu politiquement incorrect, puisque vous allez souvent voir ailleurs. Et plutôt les extrêmes droites, eux par contre, vous serez très plutôt libertins, dans le sens où vous aimez bien transgresser les choses et avoir un peu des choses hard issues hein, des films porno et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilà pour ce soir.
C'est sympa, non?
Donc on ne demandera pas votre bord hein, politique si vous êtes un peu à toi droite.
Ah non, non, et puis on parle
ça
pas
va,
de...
Vous avez vu, ceux qui sont de milieu, ça va, eux, on leur demande rien, ils sont plutôt pas mal.
On ouais. parle pas de, de politique, effectivement. Maintenant, je dis juste une chose, c'est il bah, reste
c'est pour
une
ça
semaine.
Que j'ai fait ça.
Et les gens, soyez votés ce
c'est,
que vous
c'est
avez
pour
envie
ça que
de voter.
Ça.
Vous,
c'est pour que
et
les
pas
gens
ce que vous...
s'aiment.
Oui.
Voilà.
Et pas ce que vous, les autres vous disent de voter. Voilà. Allez-y, pour votre âme et conscience, n'écoutez personne, écoutez votre choix.
Votez blanc, mais ça au moins tout le monde tranquille.
Après, les gens, ça les regarde. Alors, on peut le dire, dans le domaine, je dirais, par rapport à votre métier, vous bougez beaucoup, oui. vous avez aussi une vie de famille, tout ça, donc oui. c'est, on part du matin, on découche à l'hôtel, on rentre pas tous les jours, on,
oui,
comment ça se passe, on peut en parler ou ça,
oui,
ou
non,
c'est privé.
Ça se passe comme ça, en effet, on s'adapte aux horaires de... des besoins de l'enquête, donc c'est pas toujours simple. Le métier le nécessite. Enfin, il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont similaires et qui nécessitent d'avoir des horaires un peu particuliers.
D'accord. 21h46, vous faites votre. Vous la faites ?
Non.
Ah, vous la faites pas ?
Ben, c'est un peu tard.
Ben non, regardez, il est 21h46 en même temps.
Oui, d'accord.
On vous écoute pour la
non,
rubrique ?
Non ?
Non. Ah bon, d'accord. Eh ben écoutez, il n'y a pas de souci, on ne la fait pas alors. Mais il n'y a pas de problème. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que vous pouvez nous raconter ? Bah, d'autres choses, je ne sais pas, qui s'est passé
Bah, alors, il y avait aussi, comme j'ai beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce métier-là, j'ai décidé de monter l'activité filature loisir. C'est une activité que je peux faire dans différentes communes à proximité, donc dans le Rhône-Alpes de préférence, pour faire découvrir ce que c'est que la filature aux personnes vraiment qui s'intriguent du métier en lui-même. Donc on a monté toute une affaire, ça part vraiment d'une vraie affaire à la base qu'on a ensuite transformée un petit peu, mais pour vraiment que ça ressemble au mieux à ce qu'on vit tous les jours. Et par groupe en fait de candidats, vous êtes amené à suivre quelqu'un et à récupérer le maximum d'informations pendant la mission.
Oh, c'est sympa pour un temps de
vie. Donc c'est un scénario
ça.
Tout prêt.
C'est un scénario qu'on a construit, d'accord. mais qui ressemble vraiment à une enquête. Et vous êtes par équipe de 5 et vous êtes amené à devoir suivre une cible qui est déterminée. Donc on vous donne la description de la cible, l'adresse où vous allez devoir la récupérer. Et ensuite, vous avez du matériel professionnel, appareil photo, tout ce qui suit. Vous partez en mission pendant 2 heures pour... avec une équipe qui est contre vous et qui cherche aussi à avoir des informations. Et donc, vous essayez pendant
j'ai vu un truc comme ça à la télé dans un labyrinthe.
Il y a beaucoup de jeux dans
oui,
ce
type-là. Oui, c'est ce que je vais faire bientôt.
Après,
c'est une énigme. Ouais. Mais en fait, tu es dans une boîte. Il faut, pendant une heure, tu as une heure pour sortir de la boîte et tu as plein d'énigmes à retrouver.
Il y a plein
et
de jeux
moi,
dans
moi, j'ai
type-là.
Un couple d'amis qui a fait aussi... on vous donne un pass, vous payez votre nuit. Par contre, vous avez toute la journée pour trouver votre... où est-ce que vous allez dormir ?
Oh là, ça va être sympa, ah oui. ça.
Ouais, ils l'ont
tu
fait.
Tu dois pas être dans dehors,
non,
t'as
non, ils l'ont fait.
Efficace.
Donc, ils l'ont fait. C'était, je crois que c'était en Lozère. Ils l'ont fait. Et donc, vous avez toute la journée. Vous vous baladez, vous visitez plein de trucs. Vous allez chercher des cartes. Il y a des gens qui vous aident, bien sûr, parce que vous n'avez pas dans la mort. Et en fait, à la fin de la journée.
Un peu comme une carte au trésor.
Voilà, à la fin de la journée, eh ben, vous allez dormir dans un super endroit.
Ou pas.
Ouais, si, bah ouais,
non,
du coup.
Non, parce que vous avez payé et non, les gens vous aident.
On a fait un
aident.
Concept similaire avec les clés. Vous perdez vos clés et vous passez toute la journée à essayer de les retrouver.
D'accord.
Non, mais faut
du coup, si vous la retrouvez, vous rentrez chez vous. Tomber. Sinon, bah vous.
Et ça, vous allez lancer ça de quoi ?
Non, moi j'ai un digicode, donc ça va.
Mais tombez, moi je pète un câble, franchement.
Et ça, c'est monté depuis. Ça fait 2 petites années. On a monté une autre formule aussi qui est la formule scénario où on vous distribue des cartes et ces cartes vous disent que vous devez récupérer comme information auprès du passant.
Ah oui, voilà. Mais
c'est ça,
c'est la même chose.
Ça, il faut faire pour les enterrements de vie de jeune fille et vie de garçon. Ça va être trop
bien,
ça.
Il faut, bien être challenger quand même parce qu'on avait fait ça comme ça pour les enterrements de vie de garçon et en fait, c'est avéré que c'était quand même assez compliqué. C'est pas pour tout le monde, quoi. Si vous aimez pas le challenge et bouger et courir et prendre fin, il y a quand même un peu de pression. Les gens se mettent la pression parce que vous êtes en équipe.
Bah
donc,
oui.
Du coup, faut suivre la
oui,
personne, faut pas lâcher prise.
Faut jouer, faut gagner.
Voilà, c'est pas un jeu où vous pouvez vous relaxer complètement et dire oh, c'est
bah
marrant.
Justement, enfin. Si c'est en face les autres pop, ou par exemple, on fait l'enterrement de jeunes filles, de garçons ensemble, d'un côté les filles, d'un côté les garçons, mais moi je suis sûre que nous, mais les filles, on défoncerait tout. Juste
bah
pour gagner.
Ça
quoi.
Peut être très amusant, mais voilà, moi par expérience, on l'a retransformé et aujourd'hui on parle de challenge d'entreprise parce que on s'est rendu compte que les groupes qui voulaient faire la fête, trouvaient pas forcément leur bonheur là-dedans parce que c'est quand même c'est hyper passionnant c'est très amusant derrière quand on a fini, on en parle et on se marre en se disant tiens t'as fait ça, t'as fait ci, c'est génial. Mais pendant pendant la mission entre guillemets, c'est difficile de perdre sa concentration quoi.
Prenant que voilà quoi. Fin...
C'est hyper prenant ouais, c'est vraiment vraiment prenant.
En fait, faut vraiment c'est des gens enfin qui aiment beaucoup. Ça quoi voilà.
Ouais voilà, faut être passionné de d'investigation voilà. De challenge voilà. si vous l'êtes pas. C'est...
Mais quand même, il y a quelqu'un avec eux pour aider pour.
Eux, non, du tout. Ils sont eux. Alors, ils ont ouais, quelqu'un au Tokiwalki qui les aiguille un petit peu quand ils se paument, mais ils sont cinq et cinq à réfléchir sur comment allons-nous faire pour suivre notre cible et obtenir des informations sur elle. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et de concentration. Donc, c'est là où on parle de challenge parce que dans les cinq, il peut y avoir des tensions qui naissent parce qu'il y en a toujours un qui veut réussir, l'autre qui s'en fout un petit peu, puis le dernier qui est complètement à la ramasse. Et du coup, bah, il se passe ces petites tensions. On va pas réussir. Allez, bouge, vas-y. Donc c'est pour ça que ça ressemble quand même beaucoup plus à un challenge que réellement à un loisir.
Les grosses entreprises doivent bien aimer ça parce que justement, ça soit ressoudre les gens ou ça peut montrer, par exemple, sur une échelle de 10-15 personnes, de se dire, elle serait plus leader et du coup, pour la future, si on devait donner un poste, on le donnerait plus à elle qu'à un autre.
Là, vous les voyez tout de suite. Voyez toutes les qualités de tout le monde parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup. C'est vraiment très polyvalent en fait. On vous demande d'être observateur, on vous demande d'être organisé, on vous demande de savoir comprendre l'utilisation d'un matériel tout de suite que vous connaissez pas, d'être en coopération avec l'autre équipier pour réussir à être plus efficace, parce que si vous collaborez pas, vous n'y arrivez pas. À 5, si vous êtes toujours le même qui est bon, et à un moment donné, il sera repéré, donc on peut pas. C'est pas toujours le même qui doit être là à côté de la cible, parce qu'à un moment donné, savoir collaborer, dire attends, vas-y toi, cette fois-ci, fais attention, vas-y toi, tiens, le matériel, on va changer. Donc en fait, vous allez tout de suite voir les leaders qui vont savoir s'organiser, et c'est là où on fait une vraie différence dans le jeu,
Quelle est pour vous l'anecdote, on en a parlé, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait dans ce métier? Le plus l'adrénaline.
Peut-être le changement, en fait, que ce ne soit pas toujours la même chose peut-être.
Oui, alors déjà il y a le côté un peu changement, mais après trouver des solutions là où une personne lambda n'en trouverait pas en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à chercher qu'on sait vraiment où chercher, comment obtenir l'information. Donc cette quête du comment obtenir l'information, qui est une quête quotidienne, elle est assez intéressante en fait. C'est comme si on est toujours en perpétuelle évolution de quelque chose qui serait toujours un peu mieux. Donc c'est comme si vous aviez un métier où tous les jours vous appreniez quelque chose d'autre
C'est tout en nouveau quoi.
Voilà, c'est ce truc de dire, là, vous avez un problème, madame, monsieur, expliquez-moi. Et puis, quand on vous explique le problème, déjà, vous avez des solutions parce que vous avez déjà réfléchi à ce problème-là. Et puis, vous en avez encore d'autres qui vous viennent et ainsi de suite. Et vous proposez ces solutions-là. Les gens sont surpris de ces solutions parce qu'ils se disent, tiens, c'est vrai, pourquoi pas, j'avais pas pensé comme ça, j'ai pas vu le problème comme ça. Et même après cette discussion, quand vous avez raccroché votre téléphone, vous réfléchissez encore à ça. Et puis un autre dossier va vous amener à vous dire putain, pourquoi j'ai pas fait comme ça sur l'autre dossier d'avant, et ainsi de suite. Et c'est tout ça qui fait que c'est assez intriguant et c'est prenant.
Et est-ce que vous avez déjà refusé des cas?
Oui, bien sûr.
Et quand c'est comme ça,
quand c'est pas moral, quand c'est pas légal, quand c'est pas légitime. On prend pas les dossiers parce que c'est des sources à problème, puis on n'a rien à faire dans ces dossiers-là.
Ouais, c'est quand même très
sur la recherche d'adresse, par exemple. Si la recherche d'adresse, c'est simple. Nous, on arrive à faire de la recherche d'adresse. Si demain un client m'appelle pour me dire, vous pouvez me retrouver cette adresse-là, s'il me donne pas un acte juridique me permettant de légitimer son action, ou si tout simplement il refuse que moi je puisse contacter la personne et lui demander si elle accepte d'être mis en relation avec le client, je le fais pas.
D'accord.
Je donne pas d'adresse parce que c'est l'information à caractère personnel. Et puis si on se mettait à vendre des adresses comme ça par-ci par-là, on s'en sortirait pas.
Oui, puis vous avec le TNI, c'est quand même une protection des personnes. Donc du coup, si vous commencez à enfreindre un peu ces choses-là, eux ils vont vous taper sous les doigts. Donc derrière, c'est
déjà
compliqué.
Il y a le problème en effet légal. Et puis après, c'est une question de moralité. L'enquêteur, il est pas là pour vendre n'importe quoi.
Oui, mais il y a quand même des gens qui doivent en profiter parce que tout entre guillemets pour certaines personnes tout est bon à prendre.
Souvent le client vous appelle et puis il vous dit. Par exemple, combien vous me prenez pour me faire ça? Puis vous répondez non, moi je vous fais pas ça. Et puis lui vous dit c'est bizarre, votre confrère il m'a dit qu'il me prenait tant pour le faire. Oui, bien sûr.
Et du coup, vous avez une charte?
Bien sûr, il y a un code de déontologie qu'on est censé respecter. Mais après, si vous le respectez pas, si personne vous contrôle, Mais bon, voilà, c'est la moralité d'une détective privée. C'est cette idée de justice qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a envie de faire respecter la justice et de se donner des règles pour pas faire n'importe quoi, ou est-ce qu'on n'est pas forcément dans ça et qu'on veut vendre n'importe quoi? Moi, j'ai choisi de suivre cette.
Et est-ce que votre métier
droiture.
Est justement mal vu à cause de personnes qui justement enfreindraient un peu plus les lois, quoi?
Certainement. Je pense que oui. Je pense que ça y joue beaucoup. L'avocat nous voit parfois pas forcément du bon œil parce qu'on lui donne pas forcément satisfaction dans la rédaction du rapport. Après, je pense que l'avocat a une méconnaissance aussi du métier du détective privé, et c'est dommage parce qu'on aurait beaucoup à leur apporter. Ils seraient même surpris, je pense.
Ce serait même logique, on va dire, qu'un avocat demande un détective dans le sens où lui, il n'enquête pas, contrairement à vous, quoi. Donc, du coup, c'est une alliance à se dire, par rapport à mon client, j'ai des détectives autour de moi qui vont pouvoir vous aider pour qu'on puisse avoir un bon dossier, quoi, en fait.
Moi, quand je visite des cabinets d'avocats, parfois, j'ai les cabinets d'avocats qui me disent qu'ils sont pas intéressés parce qu'ils ont déjà eu affaire à un enquêteur et que ça s'est pas bien passé.
Ouais, voilà.
Après, il y a le problème de l'avocat qui vous demande des choses qui sont impossibles à avoir parce que l'avocat, lui, il a d'énormes connaissances juridiques, mais alors par contre, sur comment obtenir l'information, il est complètement à la ramasse. Ouais. Donc, il vous demande l'info, il vous pose le truc et vous dit, ouais, obtenez-moi cette information-là. Sauf qu'après, ça nécessite pour nous toute une complexité. Parfois, c'est même pas possible. Et ça, je pense que l'avocat, il a pas forcément envie d'entendre ça. Il a envie que vous lui apportiez ce qu'il demande.
Sa réponse.
Et vous êtes soumis à plein de problèmes d'atteinte à la vie privée, de choses comme ça. Donc,
oui.
Parfois, il vous dit, non, la photo, je la veux quand même. Vous lui dites, non, je ne peux pas vous la produire, cette photo, elle ne respecte pas l'atteinte à la vie privée. Enfin, c'est une atteinte à la vie privée. Donc, vous êtes en débat comme ça avec un avocat qui vous dit, si, moi, je la prends. Et puis, vous lui dites, non, écoutez, non.
Moi, j'ai un ami au barreau de Lyon qui est aux assises, qui fait souvent appel, parce que sur les crimes, sur les choses comme ça, il fait souvent appel, il a besoin de. Et des fois, ce n'est pas tellement d'avoir la photo, c'est juste pour mettre mal à l'aise l'autre côté. C'est juste. Pas pour montrer, mais pour juste à dire, attention, nous, on a, on sait.
Et c'est le problème, c'est qu'après, nous, on peut être poursuivis pour les photos qu'on remet. C'est pour ça qu'on se méfie même en tant qu'enquêteur. Moi, personnellement, je me méfie même parfois des cabinets d'avocats avec qui je travaille parce que si je les écoutais, je leur produirais tout. Mm-mm. Même des choses que je ne suis pas censé faire ou pas censé. Je ne les fais pas, les photos, donc souvent, je ne les produis pas. Mais si je l'écoute, l'avocat, il me demande de prendre des photos que je n'ai pas le droit de prendre.
Oui.
Mais en effet, c'est une question de déstabiliser la partie adverse. Il l'a quand même vu, interprète quand même la photographie prise, mais après, derrière, vous avez un dépôt de plainte pour atteinte à la vie privée, et c'est vous qui dérouillez. Mais
on nous dit, quel type d'affaires sont les plus fréquentées?
Il y a beaucoup de concurrence déloyale, parce que c'est quand même un vrai problème. Travail au noir, organisation frauduleuse, insolvabilité, donc quand la pension alimentaire n'est pas payée et que la partie adverse, enfin le mari ou la femme ou l'homme dissimule volontairement une partie de son patrimoine pour pas avoir à payer. Donc ça, c'est les dossiers qui gardent d'enfants aussi, le père ou la mère qui s'absente régulièrement et qui veut pour autant la garde exclusive ou la garde alternée pour ne pas avoir à payer la pension. Ce sont des dossiers qui reviennent souvent.
Donc, on l'a dit, il y a un site internet, non?
Oui, www.nodetective.fr, nosdetective avec un s.fr. Et pour le loisir, c'est filatureloisir.fr.
Filatureloisir.fr. Et c'est à partir de quand, ça, qu'on peut venir? Comment ça se passe?
N'importe quand. Alors, c'est un loisir. On l'a vraiment mis en place pour faire découvrir l'activité. Donc, on limite les places parce que c'est quand même des détectives qui gèrent le truc. Donc, des vrais professionnels qui accueillent des particuliers.
C'est pas vous qui le faites, ça?
Si, c'est moi et d'autres professionnels qui travaillent avec moi. Donc, c'est quand même, entre guillemets, un loisir de luxe parce que vous n'avez pas des amateurs, vous avez des pros qui vous accompagnent dans ça. Donc, c'est ça que j'ai trouvé ça sympa.
Ça dure combien de temps?
2 heures.
Et les prix?
Les prix, je crois que c'est 25 ou 30 euros par tête.
D'accord.
C'est tout à fait accessible.
Il est l'heure de se quitter, les amis. 21h59, on était avec Alexandre, détective privé. Il serait la semaine prochaine. Demain, on pourra trouver le podcast sur www.couleurfmfm.fr. Et la semaine prochaine, Julie sera là avec nous. Merci à vous d'avoir répondu présent. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut, bye bye. Merci,
ciao.
Alexandre. Ciao.
Merci.